Passion lire, la chronique littéraire de Gilles Labouroir. Bonjour, voici quelques minutes de littérature que je partage avec vous. Quand je pense à tous les livres qu'il me reste à lire, j'ai la certitude d'être encore heureux, disait Jules Renard. Aujourd'hui, La Storia d'Elsa Morante. Le roman La Storia paraît en Italie en 1974. L'histoire, c'est à la fois celle du pouvoir et l'histoire anonyme de ceux qui en sont écrasés. Brassant avec la même vitalité, la même joie de vivre, les grands événements historiques et les drames singuliers de ses personnages, l'auteur situe l'action en Italie entre 1941 et 1947. Une institutrice à moitié juive, Ida, rencontre un jeune Allemand à Rome. Ivre, il la viole, un bâtard va naître, Giuseppe. Avec horreur, Ida apprend que dans la nuit du 15 au 16 octobre 1943, les nazis ont raflé tous les juifs de Rome, dans le ghetto d'abord, puis dans toutes les maisons de la ville. Au printemps 1945, les journaux montrent les premières photos de libération des camps de concentration. Ida jette le journal pour ne pas faire peur à son fils. Le roman de Elsa Morante est publié 17 ans après l'Isola di Arturo. Dans ce laps de temps, il faut chercher le chemin qui mène à la rédaction de La Storia. Ce parcours est constitué d'essais qui représentent une prise de conscience et une prise de position par rapport à l'art et à l'écriture. La Storia peut alors à juste titre être considérée comme un évangile laïque dont les protagonistes ne sont que les martyrs inconscients. Elsa Morante est née le 18 août 1912 à Rome. Elle passe son enfance dans le quartier populaire du Testaccio. Fille d'une institutrice de confession juive et d'un employé des postes. Elle rencontre l'écrivain Alberto Moravia en 1936 avant de l'épouser en 1941. Alberto Moravia est accusé d'antifascisme. Elle le suit dans son exil dans le sud de l'Asium jusqu'à la fin de la guerre. Mais le couple se séparera en 1962 sans jamais divorcer, le divorce en Italie n'étant possible que depuis 1970. Avec Moravia, elle rencontre un grand nombre d'écrivains et de penseurs italiens, dont Pier Paolo Pasolini, avec lequel elle se lie particulièrement d'amitié. Elle voyage ensuite en Espagne, en URSS, en Chine, et en 1960 aux États-Unis, où elle se lie avec un jeune peintre, Bill Morrow, qui meurt en tombant d'un gratte-ciel new-yorkais dans les circonstances non élucidées en 1962. Laissant de côté ses activités d'écriture, Elsa Morante participe à cette époque et de manière plus ou moins visible au film de Pasolini. Elle publie en 1974 La Storia, qui devient un best-seller mondial avant d'être adapté à la télévision italienne en 1986 par Luigi Comencini. Son dernier roman, Aracoeli, paraît en 1982. Dans cette œuvre, Elsa Morante aborde entre autres la mort de Pier Paolo Pasolini. Malade des suites d'une fracture du fémur, elle tente de se suicider en 1983. Elle meurt le 25 novembre 1985. Pour dire la vérité, la seule chose que, d'instinct, Günther était en train de chercher en ce moment dans les rues de Rome, c'était un bordel. Non tant par une envie urgente et irrésistible, que plutôt parce qu'il se sentait trop seul. Et il lui semblait que c'était uniquement dans un corps de femme, en se noyant dans ce nid chaud et amical, qu'il se sentirait moins seul. Mais pour un étranger de sa condition et de l'humeur farouche et sauvage qui était la sienne, il y avait peu d'espoir de découvrir un tel refuge dans les parages à cette heure-là et sans le moindre guide. Et on ne pouvait pas non plus compter sur lui, sur la chance d'une rencontre de rue occasionnelle, car bien qu'étant devenu, presque sans s'en rendre compte, un bel adolescent, le soldat Günther était encore plutôt inexpérimenté et au fond même timide. Depuis quelque temps, de ses tournées quotidiennes de travailleuse, Vilma ramenait au ghetto des informations nouvelles et inouïes, auxquelles les autres femmes refusaient de croire, y voyant des créations de son imagination. Et, de fait, l'imagination travaillait toujours, tel un forçat, dans le cerveau de Vilma. Mais dans la suite, certaines de ces imaginations devaient se révéler bien en dessous de la vérité. Vilma prétendait que la personne qui la renseignait ainsi était une nonne, elle allait travailler entre autres dans un couvent, ou bien une dame qui écoutait en cachette certaines radios interdites, mais de laquelle on ne devait pas dire le nom. En tout cas, elle garantissait que ces informations étaient sûres, et tous les jours, elle les répétait à la ronde d'une voix rauque et pressante, comme suppliant. Mais quand elle s'apercevait qu'on ne l'écoutait pas, ou qu'on ne la croyait pas, elle éclatait d'un rire plein d'angoisse, semblable à une toux nerveuse. La seule peut-être qui l'écoutait avec un terrible sérieux, c'était Ida, parce que, à ses yeux, Vilma, d'aspect et de manière, ressemblait à une sorte de prophétesse. Actuellement, dans ses messages, aussi obsédants qu'inutiles, Vilma répétait continuellement, et avec insistance, qu'il fallait mettre en sécurité au moins les enfants, affirmant avoir appris en confidence de la bouche de sa religieuse que dans l'histoire prochaine était marqué un nouveau massacre, pire que celui d'Hérode. À peine occupait-il un pays que, première chose, les Allemands massaient d'un côté tous les Juifs sans exception, après quoi ils les amenaient hors des frontières, on ne savait où, dans la nuit et le brouillard. La plupart mouraient en chemin ou s'écroulaient à bout de force, et tous, morts et vivants, étaient jetés l'un sur l'autre dans d'énormes fosses que leurs parents ou leurs compagnons étaient forcés de creuser en leur présence. Les seuls qu'on laissait survivre étaient les adultes les plus robustes, condamnés à travailler pour la guerre comme esclaves. Et les enfants étaient tous massacrés, du premier au dernier, et jetés dans les fosses communes le long de la route. Un jour où Vilma tenait ses propos, il y avait là, outre Ida, une petite femme âgée, modestement vêtue mais coiffée d'un chapeau. Et cette femme, à la différence de la boutiquière, acquiesça avec gravité aux lamentations démentes et rauques de Vilma, et même, parlant à voix basse par peur des espions, elle intervint, affirmant avoir personnellement appris de la bouche d'un sous-officier de carabiniers que d'après la loi des Allemands, les Juifs étaient des poux et devaient tous être exterminés. À la victoire certaine et maintenant proche de l'Axe, l'Italie aussi allait devenir un territoire du Reich et être soumise à la même loi définitive. En haut de Saint-Pierre, à la place de la croix chrétienne, ils allaient mettre la croix gammée, et les chrétiens baptisés eux-mêmes, pour ne pas être inscrits sur la liste noire, devraient prouver que leur sang était à rien. C'était la chronique littéraire de Gilles Labouroir. À bientôt.